With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Deuxième partie de ce quête latéral de septembre 2022 et on va attaquer la troisième chronique avec Daz qui a décidé de retirer l'amusement du jeu vidéo.
On va dire ça. Il y a des millénaires, j'avais écrit
les hommes.
Quelque part, non justement, j'ai hésité mais je ne l'ai pas fait. Il y a des millénaires, j'avais écrit quelque part, je ne me souviens plus où, que la notion d'amusement sur un jeu multijoueur en ligne, en PVP, c'était une chimère, et que le seul truc qui faisait tenir le joueur sur n'importe quel titre, qu'il soit FPS, MOBA, RTS ou simu sportive, c'était la perspective, une fois atteint le niveau requis, de faire subir au nouveau venu ce que lui-même avait subi en arrivant. Rien d'autre. Je parlais de ça donc en 2005-2006 pour des parties entre Quidam absolument lambda. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, le jeu compétitif de haut niveau en ligne, astucieusement appelé le e-sport, est devenu absolument anodin dans le paysage vidéoludique, sauf pour les gens de Marianne qui ont eu un peu de mal à comprendre le truc. SO à Marianne pour son article. Tout ça s'est structuré et puis un plan de carrière maintenant est possible pour les quelques chanceux dotés d'une coordination œil-main au-dessus de la moyenne. Le souci c'est qu'en devenant compétitif pour le spectacle de l'e-sport, le jeu en ligne a dans le même temps oblitéré toute notion de fun chez les simples mortels que nous sommes. La faute à deux choses hautement répréhensibles qui se sont développées. La première, c'est l'exploitation de la méta. Pour rappel, la méta, c'est un diminutif de metagame, c'est-à-dire le jeu dans le jeu, en fait. Hein. La façon d'analyser et d'appréhender le jeu pour être efficace, quitte à faire des trucs que les devs n'avaient pas forcément prévus au départ. Le deuxième truc, c'est le tryhard. C'est une occupation qui voit un joueur absolument quelconque se mettre à jouer au jeu comme si sa vie en dépendait, avec pour seul objectif de devenir bon. Combiné à la puissance d'Internet, la méta et le tryhard ont méticuleusement détruit toute molécule de spontanéité et de joie qui pouvait subsister dans le cœur du joueur, amené à se confronter à ses pairs et éventuellement se faire de l'oseille. Quel build utiliser, comment l'optimiser, comment exploiter certaines limites et failles du jeu pour être meilleur que les autres. Les joueurs ne prennent désormais plus la peine de penser par eux-mêmes et s'en remettent à des sites dédiés, hein, un peu comme les trucs de Solus ou les guides, si chers à votre cœur de casu, qui listent par le menu tout ce qu'il faut faire pour devenir un joueur efficace, mais un être humain de merde. Prenez Hearthstone Battlegrounds dont je parlais dans cette formidable émission en mars 2021.
C'est
oui, déjà. À l'époque, en parlant de Hearthstone classique dans ma chronique, je disais parce qu'Hearthstone de base est un jeu évidemment très joué par les tryharders de tout poil, le jeu est décortiqué méthodiquement afin de trouver une méthode optimisée pour faire un maximum de dégâts. Débarquer sur Hearthstone tardivement avec son petit deck vanilla de joueur casu, c'est se retrouver dans des parties où l'adversaire vous pose 3 cartes 150-150 avec Bouclier des Vins, Furie des Vents et Râle d'Agonie au deuxième tour, quand vous êtes encore en train de vous demander si dégainer sur Murloc 2-3, c'est pas un petit peu trop à ce moment de la partie. Et je disais, Battlegrounds met fin à tout cela, puisqu'il n'y a pas de deck building. My sweet summer child.
On t'avait prévenu, hein.
Sweet summer child. 535 heures de jeu plus tard, j'ai un peu joué. J'ai un peu d'XP sur Battlegrounds, et je peux vous dire que je me trompais lourdement, et qu'évidemment, un jeu comme HSBG a été totalement gangréné par la méta et le tryhardisme. J'en veux pour preuve la désormais classique Forban Khadgar Elisa Baron qui, quand on n'est pas prévenu et qu'on tombe face à un joueur qui s'en sert, nous donne tout simplement l'impression que le jeu a planté et repop des pirates à l'infini, qui en plus gonflent leur stack à chaque fois. Et bah pour moi, il est clair que ce truc-là, sans un site qui liste les builds, personne n'aurait eu l'idée de jouer de cette manière. Savoir qu'en l'imprésence d'une carte, en l'occurrence Khadgar, et d'un baron, le Forban, qui est une carte de merde, pirate, se retrouve à repop 142 fois la même carte au lieu de le faire une seule fois quand il est mort, et se dire « Hum, ça marche, je vais y coller Elisa, comme ça, ça va gonfler les stats de tout le monde à chaque fois qu'un pirate attaque. » C'est génial. C'est le même niveau de proba que de découvrir la recette du coca en essayant de faire un alambic pour changer le plomb en or. Et quand je vous dis que cette build, on la croise quasiment à chaque partie qui permet de jouer les pirates, ça fait quand même beaucoup pour un jeu qui, à la base, je le rappelle, distribue les cartes aléatoirement. Sans exploitation et communication, ce truc aurait dû rester une légende, du même type que les seringues au sida dans les cinémas parisiens ou un homme politique de droite respectable. Les amateurs en auraient parlé entre eux dans les conventions. Il paraîtrait que Nathan Clark Kinkle, des moines dans l'Iowa, a croisé un gars qui a rencontré quelqu'un qui lui a dit que la sœur de son beauf avait parlé avec un gars qui aurait croisé un véritable sac à merde sur Hearthstone. Tu te rends compte ? Du coup, moi, je me marre sur Hearthstone Battlegrounds, au grand dam de mon chat, qui se désespère de me voir jouer n'importe comment. Je préfère personnellement dire avec le cœur, et d'apprendre différents scams que je croise. J'en joue certains très occasionnellement, mais quand vraiment ça ressemble plus à de l'exploitation de bugs qu'autre chose, je passe volontiers mon chemin. J'ai évoqué Hearthstone, l'âme il a dit c'est ton nouveau Elite, ou c'est ton nouveau Star Citizen, mais il y a évidemment la même chose dans Elite, avec des builds de vaisseaux absolument dégueulasses qui permettent de tuer n'importe qui en moins de 20 secondes, quel que soit son vaisseau, quel que soit son niveau d'équipement. Moi j'ai rien contre les pros qui jouent contre les pros avec des techniques de pros. Je suis un rageux, ok, mais pas à ce point-là. J'apprécie en revanche assez peu les gens qui se prennent pour Lewis Hamilton et se permettent de rouler à 180 en ville juste parce qu'ils ont la même casquette McLaren que leur idole. Dans une partie normale, c'est un peu relou de se faire bousiller par des gars qui, de toute façon, ne seront pas les Michael Jordan de la discipline. C'est pas l'outil qui fait l'ouvrier, c'est pas l'équipement qui fait le basketteur, et c'est pas la méta qui fait le PGM. Alors je pense à ça, et ça me fait penser en fait aussi à l'époque où il fallait faire des exposés en cours, au lycée, au collège, etc. Il y avait toujours deux écoles. Il y avait celle des gens qui lisaient les sources et qui essayaient d'en tirer un truc global basé sur ce qu'ils en avaient compris, et puis ceux qui se contentaient de réciter un patchwork de trucs repris mot pour mot dans tous les bouquins qu'ils avaient trouvés, sans jamais essayer même de comprendre ce qu'ils recopiaient. Pour moi, la méta et le tryhard appartiennent à cette seconde catégorie, et ça me fait forcément m'interroger sur le fond, parce que perso, c'est pas exactement comme ça que j'envisage l'amusement et la gratification d'avoir accompli un truc. Alors je pose trois questions aux personnes familières de l'e-sport et de jeux estampillés compétitifs autour de cette table, à savoir vous deux là, principalement.
Bonjour.
Première question, quel intérêt vous tirez à appliquer un plan de jeu, build, tactique que vous avez lu sur internet et à l'appliquer bêtement ? Deuxième question, pas du tout orientée, est-ce que ce faisant, quand vous appliquez méthodiquement un plan de jeu élaboré par quelqu'un d'autre, vous vous considérez comme un bon joueur ou pas ? Et enfin, dernière question, est-ce que vous avez une âme ?
Voilà. Ah, très bien, merci beaucoup Daz. Alors moi, je peux répondre sans complexe, parce que dans les jeux de combat, il n'y a pas tout ça.
Il y a les frames, les combos infinis, il n'y a pas de méta garantie,
tu gagnes tout le temps, tu fais un plan de ça, sinon c'est supprimé du jeu de combat tout le temps. Si, il y a des schnapseries Marvel vs voilà. Capcom, etc. Mais ça, c'est des jeux personnels.
C'est ce qu'on appelle Exo Game,
Octonoken, les trucs comme ça n'existe pas.
Non mais tu sais les combos du live, les trucs où quand un mec il te sort un Ryu, tu sais exactement quel enchaînement il va te faire parce que tout le monde le fait, parce que c'est
mais c'est pas garanti comme tes trucs de Hearthstone qui ressemblent à des glitch au Yalo.
Ah oui, d'accord,
impossible,
oui,
tu vois, ça n'existe pas. T'as à peu près dans les bons jeux de combat les chances de gagner pour tout. Tekken, un des meilleurs jeux comme ça, tu peux jouer peut-être le perso le plus en haut de la tier list, mais il prendra toujours des F2 jungle et moitié de combo avec n'importe quel perso en face, tu vois. Faut juste jouer à des bons jeux, arrête de jouer à de la merde, frère. Sans déconner, ça me rend fou.
Mais non, mais c'est pas que sur Hearthstone.
Tu joues à
c'est...
de la merde, des jeux aléatoires, random, de jeux de cartes. Évidemment, c'est du deck building. Évidemment, c'est.
Mais non, c'est
méta.
Pas du deck building. C'est ça qui est incroyable. Mais
j'ai l'impression que tu me racontes moi quand j'ai découvert le jeu compétitif Pokémon. Bah oui, j'arrivais dessus. Je croyais en ma team trop fort. Et ensuite, on me sort Team Stoller, boost de stats, imbloquable, sweep de team. Je fais mais c'est de la merde ton jeu. Bah ouais, mais il faut que tu joues une team qui contre ça fait allez y aller Dazé, je retourne jouer à Street Fighter la mua.
Étant un promoteur
de l'e-sport
inlassable de l'e-sport depuis bientôt j'attaque ma troisième décennie quand même de promotion de l'e-sport, mais moi la vraie raison pour laquelle je fais du net decking, donc c'est le fait de copier-coller des decks de pro, que je regarde les meilleurs builds, quand je regarde la méta, etc. C'est pour deux raisons qui viennent de la même raison, c'est que je suis mauvais.
Donc la première raison, tu seras pas meilleur.
Non mais la première raison, c'est que je suis mauvais. Donc notamment, prenons l'exemple de Hearthstone et des jeux de deck, des jeux de cartes. Ce que j'adore de Hearthstone, c'est de voir comment des mecs ont compris des interactions, ont imaginé des decks que je n'aurais jamais de ma vie, même si j'avais passé 6 mois dessus à dire, je regarde les cartes, je regarde la carte, qu'est-ce qui serait intéressant comme interaction que je n'aurais jamais compris. Donc, je suis émerveillé par le talent des gens pour dire, mais en fait, regarde-moi ce truc-là, tac, 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 là, ta win condition, elle est là, boum, ça se tente, t'as 70% de chance de gagner. Ou alors même des decks pourris, mais à hurler de rire. Voilà. Donc, il y a un truc où je ne suis pas assez bon pour imaginer des choses. et on en revient à la on en revient à la chronique de Solus, c'est que j'ai joué à Final Fantasy VII sans Solus, comme je le voulais, et en fait j'ai joué très mal au jeu, j'ai loupé plein de trucs.
Clair, hein.
Et la première fois que j'ai vu la Solus de Final Fantasy VII, je vais à la table ronde, c'est quoi ce truc sous l'eau? Ah ouais, d'accord, tout scénario, donc j'étais un peu deg. Donc ça me dérange pas, encore une fois, de me faire aider ou de m'inspirer. Et le deuxième truc, c'est que je suis encore une fois un joueur qui n'est pas très bon, et connaître la méta ne me garantit pas que je vais gagner. Ça veut dire que même si je savais qu'à Street, étant fan de Honda, la méta était de jouer Luke, c'est pas parce que je me mets à jouer à Luke et que je vais à tryhard Luke et que j'ai vu des démos de Daigo qui dose Luke que je vais devenir bon. Et de la même manière à Hearthstone, mais c'est un jeu qui est beaucoup moins basé sur le skill, il n'empêche qu'il y a des decks qui sont difficiles à ce qu'on appelle piloter. Donc il y a des decks qui sont difficiles parce qu'ils t'obligent à faire des choix un peu gris constamment, rien n'est idéal, etc. Et ils sont difficiles. Et ouais, moi je me dis, attends.
C'est vite Zef, hein,
bah,
le jeu de cartes. Hein.
Bah non.
L'exé, elle est zéro.
Et justement, il n'y a pas d'exé, mais justement, même à ce niveau-là.
Si, l'exé, elle est forte.
Bah sur Battleground, à la fin, t'as de la PM. Mais bon, même à ce niveau-là, même si j'ai vu un mec qui est numéro 1 du ladder, ou si c'est Thais, ou si c'est des pros qui pilotent le deck et je le copie-colle et je comprends comment ils jouent le deck. Et je n'arrive pas à leur niveau. Donc ça me dérange pas parce que étant mauvais, ça me permet de découvrir des trucs incroyables, de prendre du plaisir à le faire, des fois aussi modifier un peu le truc à ma convenance, même sur un build de perso. Et voilà, et ça veut pas dire. Je fais ça pour regarder parce que de toute façon, moi j'ai toujours été nul dans les trucs compétitifs, tu vois. Et c'est juste que mes decks, je trouve. Enfin, à chaque fois que j'ai inventé des decks dans Hearthstone, j'ai trouvé pas drôle à piloter par rapport aux decks que je trouvais sur Internet.
Je pense que c'est là où justement, Daz, tu as décidé de basculer dans le sport. C'est-à-dire que quand tu joues aux échecs, il faut connaître tes ouvertures. Quand tu fais du sprint, t'es obligé d'avoir... Tu peux décider de sprinter en sautant et pas en se mettant ces trucs.
Mais
tu peux être créatif, mais en fait, à ce moment-là, c'est compliqué de combattre, enfin de se battre avec des gens. Et aux échecs, tu peux pas te dire, tu sais quoi, je vais apprendre zéro ouverture, je vais y aller avec un open mind et je vais le faire. Bah non, tu vas te faire.
Je suis d'accord. Il y a deux
minutes. Ton chance, c'est genre qui apprennent à jouer au jeu.
En fait, tu mais, non, mais, non. Mais est-ce que ce serait pas toi qui serais un gros con égoïste qui dirait, mais soyez tous nuls comme moi pour que je m'amuse
non,
sans rien branler?
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que franchement.
T'es le mec qui arrive au concours à l'examen qui dit, mais franchement, vous
mais non, mais
a... réviser, moi j'irai réviser.
Mais non, c'est pas avec. Il y a une différence, encore une fois, et j'ai pris justement la métaphore de la pédagogie. Faire du recracher du par cœur dans un exposé alors que toi ce qu'on te demande c'est justement de dire ce que t'as compris du truc.
Ah, tu connais pas l'éducation nationale française.
Bah justement, c'est pour ça que voilà, n'empêche que ouais, pour moi c'est un truc, j'arrive pas à comprendre en fait quelle gratification tu as dans un jeu comme ça où en fait ce qu'on attend c'est précisément que ça soit tes inputs à toi et ton truc à toi, ton expérience à toi qui fasse que tu fais ta partie. Quel est le putain d'intérêt dans ce cas-là? C'est quoi? Mets-moi un bot, mets-moi un bot avec le nom du mec qui a créé le deck.
Mais c'est qu'il y a une impossibilité. Il y a une impossibilité, c'est que tu ne peux pas créer un système équilibré où les gens bons et tryharders et les gens feignants et créatifs s'amusent sur un pied d'égalité.
Non mais justement, le problème c'est ça, c'est le tryhard.
Mais c'est pas le tryhard.
À quoi bon?
C'est que même en termes de game design, c'est impossible de satisfaire tout le monde en même temps.
C'est pour ça que ces jeux sont obligés d'évoluer tout le temps.
Oui, non mais en fait, je pensais que justement avec une méta réduite, donc. Hearthstone c'est 3000 cartes, là il y en a que 120, 130, ok je m'étais dit ok 130 cartes, en plus c'est distribué aléatoirement, quand t'attaques une partie c'est au moment de la partie que tu sais ce que tu vas pouvoir jouer ou pas parce qu'il y a des tribus qui disparaissent etc, je me dis bon normalement ça va être
120
au feeling.
Cartes slash 4, 40 euros.
Non mais pour prendre des jeux de cartes comme Magic ou Yu-Gi-Oh surtout, en fait très rapidement les decks les plus connus les gens les connaissent et effectivement on se retrouve dans un système de jeu d'échecs où t'as les gens, ils ont les mêmes decks, ils ont les mêmes défenses et là c'est un peu le talent contre le talent parce que le jeu s'efface. Cela dit,
au niveau je suis d'accord,
il y a des gens comme toi qui disent merde, j'ai juste envie de m'amuser souvent dans les jeux de cartes et en fait ce qu'ils font, ils sortent leur autre jeu, tu vois, genre j'ai mon petit jeu marrant et je vais m'amuser avec,
tout à fait,
mais il faut trouver l'adversaire qui veut ça.
Le problème en fait c'est que cette notion de tryhard, c'est quelque chose qui maintenant est présent dans tous les putains de jeux qui ont une composante online.
Mais
en fait, c'est-à-dire que les mecs ils tryhardent tout, ils tryhardent le solitaire.
C'est comme si tu disais, mais ça fait chier, dans n'importe quel sport il y a une composante tryhard.
Non, parce que en fait, quand tu joues au foot avec tes potes, tu joues pas au foot au Parc des Princes.
Bah, moi je joue à Hearthstone avec des potes.
Je me permets de dire que j'étais 5e ce matin au classement mondial sur les deux Spire.
Incroyable.
Bon, moi je suis dans le top 23%.
Franchement, t'es un mec anti-méta, fais comme tous les mecs qui te cassent les pieds avec leur deck méta, mais joue le deck anti-méta, c'est-à-dire celui qui gagne une fois sur 10. Comme quand on joue le tiers dans les jeux de baston, mais quand tu gagnes, punaise, le plaisir, il ouais, est violent.
Ouais, ça, ça m'arrive, mais par accident, en fait.
Fumée.
Non, ça m'arrive par accident de flinguer des mecs. Au moment où tu vois la méta qui est en train de se mettre en place, tu fais, ok, si je le nique maintenant, il aura pas le temps de...
Il faut savoir se satisfaire du nécessaire.
Exactement. Bah, moi, je soutiens Daz à 100% dans sa chronique.
Trop de tryharders, ils font chier.
Moi, je fais partie de la team non compétitif. Je suis pour l'amusement. Oui, si tu joues au foot, bah oui, c'est pour le plaisir de jouer avec, avec tes potes et pas, voilà, pour dire, on va marquer le maximum de buts et on est hyper... Enfin, hyper dans la compète, genre on va faire des combis, pas possible. Donc ouais, je comprends que c'est chiant quand t'es... Parce que moi, je ne joue pas du tout en ligne, mais j'imagine que quand t'es dans une optique, ça va être sympa, je vais me détendre, je vais jouer en ligne, et qu'en fait, tu te fais exploser par...
Mais tout le temps, sur tous les jeux, en fait. C'est ça le pire. C'est sur tous les jeux. C'est-à-dire que tu joues un FPS... C'est pas juste le mec qui est le plus précis, machin, c'est qu'il y a des armes spécifiques avec des maps qui disent que à cet endroit-là, avec cette arme-là, je peux tirer dessus, même quand je t'ai pas vu, parce qu'en fait, le prêtre que tu prennes le virage, tu vas prendre la balle, machin. En fait, c'est relou.
Mais
c'est,
du coup, est-ce qu'il faudrait pas que.
Ouais, ça m'étonne pas.
Bah, tu vois que les instances multi, il y ait vraiment, genre dans les menus, un truc genre. Genre ici. On est juste pour s'amuser.
Mais c'est pour ça que non, cool. Mais t'as ça. Mais si,
c'est le
ça.
Salon cool.
Mais attends, sur Counter-Strike, t'as des serveurs fun, t'as des serveurs privés.
Bah, sur
moi,
Counter-Strike, ouais.
Moi, quand je jouais à Valorant, en fait, on avait créé un Discord qui s'appelait Bon Jeu à l'époque. C'était que pour dire à des gens, quel que soit votre niveau, bonne ambiance, et on joue ensemble à Valorant.
En fait, le truc, c'est que. Non, mais quand c'est du matchmaking.
Je peux jouer à Valorant comme tu joues au football en bas de ta rue, et je peux jouer à Valorant comme tu joues au football.
Quand c'est du matchmaking qui est lié à un score Elo, MMR, ce genre de truc, en fait, t'as pas le choix.
Mais parce que là, en fait, tu rentres déjà dans un truc compétitif.
Et le problème, c'est que des mecs.
Tu te plains que le jeu compétitif soit compétitif.
Arrête de jouer en
non, moi je veux juste jouer en multi tranquille en fait.
Alors toi tu peux jouer en non compétitif.
Ah bon
ah toi, c'est
sur Battlegrounds.
Ah non, mais toi t'as pris le truc qui est 100% compétitif.
Mais pas du tout. C'est juste un truc où c'est 100% aléatoire. C'est ça, c'est pour ça que j'y joue moi.
Ce qu'il te faut, c'est une bonne soirée entre potes, Daz.
Mais avec, même pas, parce que regarde, lui c'est le genre de connard qui jouerait comme ça, même en offline. Mais si,
tu feras un petit
mec, je joue Honda et Dan sur Street Fighter, s'il te plaît.
Tu viens à mes petites soirées du Cotrefa Versus. On lance des jeux émulateurs en Versus random. Personne sait jamais joué. Et là, c'est l'éclat absolu. Sauf moi qui les ai tous joués.
T'as toujours un mec qui a fait. Attends, ah oui, d'accord. Donc lui, son badge. Il est invincible, je tire 2000 badges
comme ça,
non-stop.
Je vous éclate tous et on est content. Ouais, mais tu vois, ça. On joue pas méta.
Certainement. Et avec Kirby Samurai, ils arrivent à Theory Crafter Kirby Samurai, il faut appuyer sur le bouton.
Dès que les jeux sont trop joués, ils sont pas fun. Je suis d'accord avec toi.
C'est pas ça, c'est qu'il y a vraiment cette mentale de. Il faut être. Peut-être que je vais devenir riche.
Il faut être underground.
En fait, j'ai l'impression que le mais moindre non, mec de... qui prend un jeu en ligne, il se dit peut-être que je peux devenir top player, top FR, top ce que tu veux. Et du coup, les gars, ils jouent 48 heures de suite à des jeux flingués, quoi.
Regarde cette photo de petit chat mignon.
Ouais, mais ça m'énerve.
Non, mais toi,
Daz, même ça, tu l'as tryhardé.
Marine Le Pen est tryhardé.
Je vais réappuyer ce que je disais sur les salons cool. En fait, je viens de penser, il y a une plateforme de jeux en streaming qui fait du rétro gaming. Alors, son ancien nom, c'est
Pipepacker,
mais ça a changé. Jam.gg.
Oui, Jam.gg, ça.
Et en fait, donc ça permet de jouer à des jeux rétro, à plusieurs, qui normalement des jeux n'étaient pas prévus pour le multi. Et tu peux choisir, en fait, ton mood. Donc, c'est genre. Compétitif, je veux juste m'amuser, je veux jouer mais je veux pas parler aux gens, donc juste salon muet, on fait juste que jouer. Ou au contraire, bah non, je suis plus, j'ai envie de rencontrer des gens, de discuter, donc on joue peinard et on discute. Et en fait, tu choisis en fait le type de jeu multi que tu veux. Enfin, sur le même jeu, tu choisis l'ambiance que tu souhaites. Et ça, je pense, c'est un truc qui pourrait être développé sur plein d'autres jeux.
Complètement. Complètement, voilà.
Il y a quelque chose à faire, moi, j'en peux plus. C'est la plateforme.
Je comprends.
Dis le mec qui joue un jeu où il y a que du ladder.
C'est ça.
Et alors, tu peux. C'est pas parce que t'es sur une échelle que t'es obligé de monter vite. Tu peux monter ton échelle tranquillement.
Vous disputez pas.
Avec délicatesse.
Tu peux le faire, Daz, mais tu n'as pas le droit de rager. Alors, à ce moment-là.
Mais non, mais j'ai le droit de dire que c'est des fils de pute, tous ces gens qui sont.
C'est la liberté d'expression.
Le mec qui joue contre des mecs, il se plaint qu'il gagne pas.
Non, même pas. J'ai fait deux top 1 aujourd'hui, mon petit bonhomme.
Tu la fermes un peu plus, ta gueule.
Est-ce que tu serais pas un enfant gâté?
Non, pas du tout.
Tu devrais stopper ton jeu et revenir sur des vrais jeux.
Non, c'est très bien, Hearthstone Battlegrounds. Jouez-y, c'est très sympa.
Tout ça pour ça.
Malgré les tryharders de merde.
Merci beaucoup, Daz. On va faire une dernière pause. Récemment, suite à la chronique de Chloé, vous avez appris, le prix de la PlayStation a augmenté. Du coup, Sony envisage de sortir une nouvelle version de sa PlayStation 5, mais en réduisant les coûts. Et pour réduire les coûts, ils veulent se passer de lecteurs sur l'ensemble de leur machine et donner peut-être la possibilité de brancher un lecteur externe si jamais vous voulez mettre vos disques de jeu qui vous restent encore à la maison. Êtes-vous prêt ici à vous passer de support physique pour des consoles de salon en 2022? Question qui tourne autour de la table. Chloé.
Eh ben écoute,
c'est pour payer moins cher.
Il n'y a pas si longtemps, je t'aurais dit jamais de la vie. Et enfin, je me rends compte que je serais extrêmement hypocrite de dire ça parce qu'aujourd'hui, maintenant, mes jeux, je ne les ai qu'en démat.
Voilà. Très bien, ça répond bien à la question.
Vous connaissez mon avis depuis 2008, voilà, team dématérialisé.
Oh là là.
Et encore une fois, c'est plus vert le dématérialisé que le matérialisé. Donc je l'ai fait avec la musique, je l'ai fait avec les films.
C'est vrai ça ou c'est un secret de Polichinelle?
Alors, toujours pas la question, est-ce que tu veux envoyer un fichier 1 million de fois depuis un serveur ou est-ce que tu veux emmener par bateau des containers avec 1 million de jeux et en plastique
Twitch
avec des disques en
époxy? Twitch nous explique que ça leur coûte des fortunes, les streamers à 100,
t'as des data centers qui tournent.
Mais
si c'est stocké chez toi en local sur un disque dur,
tu télécharges ton jeu, ça coûte moins cher. Je pense qu'un million de personnes qui téléchargent un jeu, ça coûte moins cher qu'un million de copies de jeux physiques distribuées dans le monde entier.
S'il vous plaît. Récemment, j'ai eu la réponse à cette question, y compris pour les Kindle, livres papier.
Vas-y, dis-nous.
Eh bien, si vous lisez plein de fois votre livre ou vous allez le regarder plein de fois votre DVD, il faut l'acheter. Ouais. Si c'est pour le télécharger une fois mais qu'il reste 2 ans sur votre disque dur, hein, peu importe, mais si c'est vraiment pour le télécharger qu'une fois, il vaut mieux le télécharger, oui.
Ça répond pas vraiment à ma question.
Si la question c'est si tu comptes y jouer tout le temps, enlever ta cartouche, la remettre, vaut mieux avoir la version physique.
C'est pour ça que les plateformes de streaming te proposent de mettre en local les fichiers que tu lis.
Exactement.
Pour éviter que si tu fais repeat 70 fois,
pour éviter de télécharger
un serveur de Spotify.
Voilà. Ouais.
Les jeux me proposent 600 mises à jour à chaque fois que je les lance.
Franchement, arrêtez avec les lecteurs CD. Il reste qui? Même les voitures, elles ont plus de lecteurs CD dans les voitures. Donc à un moment, Sony cassait pas les couilles. Microsoft avait fait un lecteur de HD DVD externe pour sa Xbox 360. C'est visionnaire.
Précurseur, mais trop tôt, Daz.
Moi, comme l'âme, j'ai plus de lecteurs DVD dans mes PC depuis 2008. Quoi. J'en ai jamais mis, en fait. Ce qui était un peu chiant pour installer Windows, des fois.
La clé USB.
Mais moi je.
En fait, maintenant, le seul usage vraiment du physique que je trouve irremplaçable, c'est pour faire des cadeaux.
Ouais.
Parce que, en fait, quand t'offres genre une carte e-shop, je sais pas, je trouve que t'as l'air un peu con.
C'est tellement impersonnel.
C'est impersonnel. C'est après, genre, avec ça, tu pourrais t'acheter le jeu.
Après,
moi,
je me rappelle quand même que les défenseurs du physique, déjà, enfin. Un des avantages du physique, c'est de pouvoir prêter les jeux à quelqu'un.
Bah
c'est
aussi,
vrai que quand ils sont dématérialisés, t'es un peu baisé.
Prêter
ça,
ton compte.
Ou le revendre. Tu vois.
Prêter ton compte, le revendre.
L'occasion, c'est un peu compliqué. Mais il y a aussi surtout les gens qui disaient, mais en fait, l'intérêt du physique, c'est quand même d'avoir des beaux coffrets avec des boîtes complètes, avec la jaquette,
la
machin, avec la notice, etc. Or, dans les trois quarts des jeux que t'achètes maintenant, c'est une boîte format DVD vide avec une galette ou alors
zéro,
un code de téléchargement.
Passion, hein.
Et la notice, en fait, c'est un leaflet qui dit va sur le site pour avoir les 600 pages du manuel.
C'est artificiel à ce point.
Il n'y a plus aucun intérêt. Il n'y a vraiment plus aucun intérêt. À part, moi, pour la revente. Et il y a des enseignes qui sont basés là-dessus, je sais pas comment ils vont faire.
On se plaint, ça fait 20 ans. Maintenant, on est nostalgique en disant rappelle-toi la vente, l'occasion. Alors qu'en fait, pendant 20 ans, on s'est plaint de se faire baiser par les magasins d'occasion qui te rachetaient ton jeu que tu avais payé 70 euros et te leur achetaient 19 euros. Il fallait que tu en vendes 4 pour en acheter un d'il y a 3 mois. Arrêtez. Mais c'est pas que le système de l'occasion était un système qui était sympa envers
nous. Non, avec des enseignes, non, mais par exemple, tu peux vendre tes jeux sur Le Bon Coin, en acheter d'autres, tu vois.
Oui, oui.
Des avis très marqués, fibre.
Je vais dire non seulement oui, mais encore
oui, quoi
plus.
Oui, quoi.
Bah oui, je m'en branle des physiques, mais je vais dire deux choses, c'est que je pense que la console ne me sert plus à rien. C'est-à-dire, j'ai beau avoir une Xbox Series X, bah en fait, c'est beaucoup plus pratique d'avoir d'utiliser le xCloud.
Ouais.
Et en plus, je suis ce mec pervers qui déteste tellement mettre un CD, avoir le bruit de la console,
mais
et que c'est long et de voir le même truc, que quand j'ai le CD, je télécharge illégalement le MKV et je le mets sur une USB et je le stream, tu vois,
mais
parce que
grave.
C'est plus simple, c'est plus simple, en vrai, c'est plus simple, et comme ça je le pirate pas, j'ai déjà la pochette pour
les deux derniers albums que j'ai achetés en physique de musique, je les ai achetés pour l'objet, j'ai téléchargé le truc en lossless ou en flac dans la foulée alors que j'ai acheté l'album. Ça me faisait chier d'écouter mon album de Daft Punk et de sortir mon CD pour mettre un CD dans une platine.
Mais c'est des feignants.
Non, mais en fait s'il y avait un vrai intérêt au physique, c'est-à-dire que le fait que tu l'aies, je sais pas, le jeu charge plus vite, machin, etc., ça serait cool, mais on sait que dans les consoles, de toute façon, ils mettent des lecteurs de 3e catégorie, des trucs de merde.
C'est plus lent, c'est
le
plus
jeu
brillant,
il s'installe
c'est...
pendant un plomb.
Consomme plus, stop.
On rappelle que ceci est un podcast de 30-40 nerfs, hein, donc.
Quadra, on dit. Quadra.
Et notre podcast, on le distribue en cassette audio, qu'est-ce qui se passe?
Je te donne un exemple.
Allez, on le dématérialise.
Je te donne un exemple. Deathloop, il est sorti hier sur le Game Pass. Tu peux l'installer sur ta machine pour y jouer. 75 gigas, donc tu en as pour 3 quarts d'heure. Si tu joues sur Xcloud, t'appuies sur un bouton, 5 secondes plus tard,
le jeu
est lancé.
La barre le duc.
Cousin. 3 quarts d'heure, 75 gigas. Oui,
très bien. Donc, visiblement, la fin du support physique sur les consoles de jeu, on semble y aller. Et même Fibre prophétise
fin des consoles.
La fin de support console.
Je suis d'accord avec Fibre, c'est un truc, c'est
un système. Mettez, ça dans, ma télé, aussi, mettez ça dans ma télé connectée.
Ah, moi aussi, la fin des machines dédiées, encore une fois, c'est une catastrophe.
On prend mot et on se retrouve dans 2025 et non pour voir si vous avez raison. On va passer à la dernière chronique
très
et
rapide.
C'est celle de la Mua.
Une seule seconde.
Très rapide. Il y a et Remaster.
Promis, c'est rapide.
Mais je te crois.
J'ai fait des bullet points, voilà.
Il y en a 114.
Mardi, conférence Nvidia, nouvelle GeForce, bouyaya, c'est très cher, etc. Bon, OZEF. Non mais OZEF, parce que justement, la conférence d'Nvidia, c'était la GTC, c'était 10 minutes de GeForce et 1h20 de on va scanner le monde et ton anus et la voiture et tout concevoir à partir de l'omniverse 3D. C'était...
J'ai décroché à anus.
Voilà. Nvidia, comme d'habitude, c'est assez incroyable et sont très 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 avancés sur l'intelligence artificielle, sur le B2B et sur le fameux omniverse et le digital twin. Bref. On se dit, bon, ok, j'ai peut-être pas envie de savoir comment ils vont révolutionner les conceptions d'usine chez BMW ou comment avec Rolls-Royce ils vont changer l'urbanisme grâce à l'omniverse. Mais avec Pixar, qui vient foutre Pixar là-dedans, vous allez voir, ils ont montré un truc qui est complètement dingue pour nous les gamers, c'est le RTX Remix. Ah. Ou RTX Remix, si vous êtes un ricain ou Jensen Huang. Qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui va être mise à disposition par Nvidia et qui va être à destination des modeurs de jeux sur PC. Et alors, c'est très technique. Mais pour faire la chose très très vite, tu chopes un jeu. Tu joues dans le jeu en activant RTX Remix. Tu te balades dans des lieux et en fait, d'une certaine manière, tu scannes les lieux.
Ah, okay, ouais.
Tu scannes les lieux du jeu. Donc, ils ont fait en démonstration donc Portal, qui va être mis à jour gratuitement. Ils ont fait en démonstration aussi Morrowind, c'est pour toi Fibre. Ils ont mis en démonstration un jeu coréen. Je ne sais plus ce que c'était. Bon, bref. Et donc, tu te balades dans le jeu, tu scannes le jeu. Le jeu, il est converti sur un format qui s'appelle l'USD. Donc, c'est pas l'US dollar, c'est le Universal... Bon, c'est un format ouvert, mis au point par Pixar, qui permet en fait d'avoir un asset compatible avec plusieurs logiciels. Une galaxie de logiciels. Donc, c'est-à-dire que Maya, After Effects, etc. Ouais,
c'est
etc.
comme un CAD...
C'est une sorte de fichier conteneur universel. Et c'est sur ce USD qui est basé l'omniverse d'NVIDIA. Parce que je vous rappelle que NVIDIA vous permet d'agréger des assets 3D, des moteurs physiques, de l'IA, des datasets d'images, etc. pour construire des mondes le plus proche possible de la réalité, les simuler et de concevoir des choses réelles grâce à ça. Et donc, ils ont utilisé cette machine de guerre pour faire cette plateforme qui te permet, donc tu lances Morrowind, pour simplifier. Tu te balades dans Morrowind, tu scannes la scène, etc. Elle passe à la moulinette du RTX Remix et dans le logiciel du RTX Remix tu te retrouves avec le jeu remodélisé dedans.
Wow.
C'est-à-dire qu'en fait il peut retrouver les polygones, les textures, les sources de lumière, etc. Et à partir de là toute la smala des solutions Nvidia se met en marche pour rescaler le jeu automatiquement. C'est-à-dire que il va comprendre que cette texture, cette tapisserie qui est un peu médiévale, dark, etc., dans l'ambiance, etc., bon, comme vous connaissez maintenant l'intelligence artificielle un peu, il va te régénérer des textures. Tu peux évidemment repenser les lumières et rajouter du ray tracing là où ça n'existe pas. Tu peux même rajouter des sources de lumière, tu peux même rajouter des objets en allant piocher dans l'omniverse d'NVIDIA, dans la banque d'objets là-dedans. Qu'est-ce que tu as à la fin ? Eh bien, à la fin, tu as un dossier que tu mets dans le dossier de ton exe de ton programme et tu lances le jeu et ton jeu est transformé. Et c'est distribué.
Est-ce que ça, c'est pas une promesse la MUA comme avec les NFT, ça?
Alors,
ça a l'air miraculeux.
Ouais. Alors, ça a l'air miraculeux.
Ça marche avec la 2D?
Alors, ça marche pour l'instant qu'avec la 3D, ça ne marche qu'avec des jeux. Alors, je ne vais pas rentrer parce que sinon ma chronique va durer 2 heures. Bon, c'est sur des jeux DirectX 8 ou DirectX 9.
Ah, bah donc on n'aura pas de jeux PlayStation alors.
Non, c'est que des jeux PC pour l'instant. Ça marche avec aussi des jeux 32 bits. Ça se fait sauter notamment la limite des 3 gigabits de RAM parce que, évidemment, si tu load des textures monstrueuses, ça ne marchait pas. Donc,
c'est le paradis du rétro gaming ton truc.
Alors,
là.
Le RTX Remix, en fait, il est un peu dingue. Ce qui est aussi un peu fou, c'est que c'est gratuit. Donc, pour les modeurs.
Rien n'est gratuit là.
Pour les modeurs, ça va être gratuit et que surtout, c'est universel. Parce que ce que dit Nvidia, ils ont raison, c'est que la scène des modeurs, c'est très compliqué. Aujourd'hui, tu veux modder GTA V, tu veux modder Skyrim, tu veux modder The Witcher, tu dois avoir accès aux outils, au langage de la plateforme. C'est très compliqué en fait. Et des fois, c'est des choses qui sont perdues. En fait, là, le truc, c'est que tu n'as même pas vraiment à coder en fait. Les modeurs les plus avancés vont vraiment essayer de changer un peu plus le jeu, mais si tu veux juste rendre ton jeu plus beau, c'est-à-dire au hasard, en 4K qui tourne avec du DLSS, avec des éclairages de malade, ou comme l'a fait Portal, ça te prendra quelques jours à toi tout seul avec ta solution Nvidia RTX Remix.
Donc ça veut dire qu'ils vont mettre sur la paille tous les gars qui font des conversions pour PC, comme par exemple les mecs qui ont fait la conversion de Spider-Man.
Non, parce que là, il faut que le jeu soit
sur PC.
Il faut que le jeu soit déjà sur PC.
Par contre, j'ai regardé là à l'instant la vidéo, c'est incroyable.
Alors, c'est
fou, hein.
C'est dingo parce que la démo notamment de Portal, donc qui va être une mise à jour gratuite, en fait, ils disent là où sur Minecraft ou sur Quake, c'était les deux démos ray tracing de l'époque, ils avaient des équipes entières qui bossaient dessus. En fait, pour Portal, c'était quasiment automatique en fait. Et le Portal, il est incroyable parce qu'en plus, dans le genre éclairage dynamique.
Là, le
avec
Portal
des...
4K, c'est juste un mec qui s'est baladé dans les décors et le logiciel, il l'a fait tout seul.
Ils l'ont fait avec RTX Remix.
Mais alors, par contre, il faut que tu te balades dans tous les décors de manière exhaustive.
J'étais pas au courant, ça c'est fou.
Tu dois mapper tout le truc. Genre,
tu dois mapper.
Ça, en fait, ils ont genre dans Morrowind, il faut vraiment que tu arpentes toute la map.
J'ai pas envie de jouer au jeu pour jouer au jeu.
Mais c'est beaucoup plus court que d'essayer de comprendre les outils de Morrowind de l'époque et d'essayer de les importer sur toi.
Il faut quand même une équipe derrière.
Tu peux pas accéder.
Tu peux en debug mode et tu te balades en god mode, tu vois. Mais en fait, cette solution n'est pas la plus dingue, puisqu'en fait, ce qu'ils ont montré autrement, c'est qu'ils ont montré encore une fois le fait qu'aujourd'hui, tu peux te balader dans la rue avec ta voiture autonome Nvidia. Elle scanne la rue, pas comme un Google Map, elle scanne la rue en 3D. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu croises une Seat Ibiza dans la rue, en fait, ça devient un asset 3D que tu peux réutiliser autre part, automatiquement.
C'est un truc.
Oh putain,
malade.
C'est Skynet le truc.
Donc, mais toi, ils faisaient pas ça, Ubisoft, là, pour modéliser des villes entières,
hein. Non, Ubisoft, en fait, ils ont des équipes entières qui vont prendre des photos à la main de toutes
mais
les textures.
Photogrammer.
Mais encore une fois, Nvidia, ça sort pas de nulle part. Parce que si vous avez regardé GTC d'Nvidia depuis 2-3 ans, l'idée de génère-moi une ville, génère-moi des gens, etc., ça existait déjà. Donc en fait, c'est pour ça que pour moi, le RTX Remix qu'ils ont montré, c'est pas de l'enfumage, parce qu'en vrai, par rapport à tout ce qu'ils ont montré depuis des années, c'est,
oui,
complètement une déclinaison d'une facette d'un système.
On est dans le même trend, ouais.
Et donc, ce qui est dingue, c'est qu'ils vont mettre en place un système de partage hyper simple. Tu n'as plus besoin de coder. Donc, il y a des gens qui vont peut-être pouvoir faire le remake de leur rêve sans avoir besoin d'une équipe qui, pendant 8 ans, va essayer de bosser ensemble pour taffer avec des outils. Et c'est un peu dingue. Les seules, évidemment, limites que j'ai vues, après, j'attaque le vrai point de la chronique, parce que c'était que l'intro. Le vrai point, c'est que, évidemment, pour jouer à un jeu RTX Remix, il faudra une carte de série 20, 30 ou 40 Nvidia, puisque ce sera automatiquement.
Bah c'est bon.
Il y a du DLSS et du ray tracing.
Bah c'est bon.
Qui a ça?
On est tous équipés autour de la table.
Le série 20, c'est la.
Série 20, mec, ça va quand même.
La 2060, c'est la carte la plus répandue sur Steam, par exemple.
Bah oui.
Bon. Et pas du tout, c'est la 1060. Arrêtez de mentir aux gens. Hein.
Question aussi. Est-ce qu'on peut changer vraiment le jeu? Pour l'instant, ce n'est que ce qu'ils appellent du remaster, enfin du remix. C'est que, en fait, tu ne peux pas changer les mécaniques de jeu, par exemple. Mais ce qu'on a vu dans la démo, notamment de Morrowind, c'est qu'à un moment, on passe sur une table. La table, elle est vide avec un chandelier. Et quand il passe sur la table, il y a littéralement un coffre qui a été ajouté depuis l'omniverse d'NVIDIA et qui a été converti au format du jeu. Et après, tu joues. Et en fait.
Oui, mais il n'y aura aucun élément de gameplay avec ce coffre, puisqu'il n'a pas de.
Non, voilà, il n'y aura pas de gameplay. Mais du coup, il y a quand même un élément qui n'existait pas. Donc, on n'est pas juste dans l'upscaling. Et ce qui est dingo, c'est que vraiment, en temps réel, t'as trois trucs. T'as le premier truc où tu scannes le jeu. Le deuxième truc où, dans le cloud, avec l'omniverse, il va tout mouliner. Et t'as l'éditeur qui te permet d'ajouter des sources de lumière. Et le troisième, en fait, c'est que quand tu lances le jeu, en temps réel, ta carte. Elle met la couverture RTX Remix sur le jeu existant.
C'est un mode, quoi, c'est un mode.
Ouais, exactement. Mais elle le fait en temps réel. Et évidemment, dernier point, ce sera peut-être un point légal, mais bon, pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui sont modés à l'infini, genre Morrowind, je crois que c'est le jeu le plus modé sur PC. T'as des repositories de modes très connus, et pour l'instant,
même
ça se passe
GTA,
bien.
Hein, même GTA,
évidemment, The Witcher. Donc voilà, Nvidia ne veut pas gagner de l'argent dessus. Je pense qu'évidemment, le but du jeu pour Nvidia, c'est que les gens disent, bah, c'est génial, je vais acheter une carte Nvidia parce que c'est une solution propriétaire.
Attends, mais GTA avec ça? Avec des vrais bagnoles.
Ah bah en fait, les gens vont surtout se poser la question de qu'est-ce que ça va donner maintenant, parce que en fait tes jeux, tu vas pouvoir les améliorer constamment, parce qu'évidemment l'omniverse étant basé sur l'IA avec le DLSS et compagnie, ça va ne faire que s'améliorer, ça va toujours être plus performant. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais presque avoir un jeu.
Les améliorer graphiquement.
Bah oui, graphiquement.
Oui, mais du coup, pour tous les gars qui sortent des suites qui sont en fait des data disques avec des trucs upscalés et des textures de meilleure qualité.
Et justement, c'est le point dont je voulais parler, puisque ce RTX Remix me permet de dire.
Square Enix,
fuck you Sony et Naughty Dog, fuck you Nintendo et autres éditeurs qui vous ressortent des remasters feignants au prix fort, voire au prix encore plus
encore
fort,
plus
forterer,
fort.
On dirait en anglais. Hein, je te regarde évidemment The Last of Us Part 1 en me disant non, c'est pas un remaster, c'est pas un remake, c'est entre mon cul. Voilà, évidemment. Tu prends le 1, tu mets le moteur du 2, tu le vends 80€ plus cher que le jeu original. Allez vous faire royalement. J'espère en tout cas qu'évidemment ce genre de pratique disparaîtra. Mais plus intéressant et plus ambiance quête latérale, se pose la question, comme d'habitude, comme dans tous les secteurs, on va dire, créatifs. Est-ce que mon emploi est menacé par l'intelligence artificielle? Et évidemment,
oui.
De la même manière que le remaster pur et simple, qui est en gros, tu retaffes des textures, globalement, tu changes rien au jeu, pas le moteur, pas les boss, etc. C'est le degré le plus bas, on va dire, en termes de production de jeux vidéo par rapport au jeu vidéo.
Normalement, ils prennent aussi les éléments de gameplay.
Non, c'est un remake. Une fois que tu changes, un jeu genre Final Fantasy ou Resident Evil, t'es sur un remake.
D'accord.
Là, je comprends. Okay. Mais on va dire qu'entre un jeu from scratch que t'as créé from scratch, un jeu dont tu as gardé les thématiques mais t'as tout modifié, genre FF7 Remake, et un jeu dont tu changes que les textures, genre le premier The Last of Us Remaster qui était en fait la version PS3 en 1080p sur PS4, vendu 40€. Incroyable. Évidemment, la partie la moins créative et la plus feignante, elle va être menacée la plus vite. De la même manière que en photo, il y a eu le débat de la stock photo. On dit, mais maintenant avec Internet, les gens peuvent faire de la stock photo trop simple. Et en fait, moi, je vendais une photo 1000€. En fait, ça vaut plus de 200€. Ou encore une fois, avec l'intelligence artificielle, les gens qui disent, en fait, moi qui faisais des résumés de match tout fait un peu codé, en fait, mon métier est menacé. Je pense qu'un truc comme RTX Remix va éclater les gens amateurs, va peut-être mettre fin à un pan de l'industrie qui était très juicy et très rentable ces dernières années, qui était l'industrie des remasters feignants, vendus tellement cher pour si peu.
Je pense à un Tales of Symphonia, présenté au TGS. L'expérience originelle, vraiment originelle, sur ta Switch.
Et là où ça devient dingue, c'est qu'on parle aussi beaucoup des fameux prompt to image et prompt to vidéo. Donc vous rentrez un truc dans DALL-E ou dans Midjourney, ça vous fait des images. Imaginez. C'est la Mua qui parle. Imaginez maintenant si on commence à faire des réinterprétations d'un jeu et de dire je voudrais un GTA ambiance Dark Fantasy.
Non, mais là c'est la Mua qui parle. Moi j'arrête.
Ouais, ça y est.
Là, je veux pas rentrer là-dedans parce que quand il parle, après on rentre dedans. Après on est déçu.
C'est la chronique des playlists.
Je parle de produits qui existent. Alors, encore une fois, quand Nvidia vous dit fais-moi une ville à la New York, c'est une démonstration en temps réel qui existe depuis au moins 2 ans, qu'on a vu en action. Quand on parle de DALL-E avec un truc qui est un simple prompt sur un truc web ou sur Discord.
Bien sûr.
Donc on est vraiment sur un truc.
Je veux dire, fais-moi un Morrowind à la GTA.
Mais on peut déjà dire fais-moi un Dragon Ball en Van Gogh qui est sur des chiottes, tu vois, sur des textes ou images.
Ouais.
Donc, encore une fois, de la même manière que quand tu scannes le jeu, il comprend le jeu en fait, parce que il va chercher des datasets, il va chercher du Wikipédia, il comprend que c'est un jeu d'Heroic Fantasy, donc il sait que par exemple l'ambiance, ça va plutôt être marron pour la tapisserie, etc. C'est le DLSS, encore une fois, je rappelle que le DLSS, c'est de la recréation d'image où en fait les pixels, c'est pas de l'interpolation.
Oui.
Il comprend en fait
qu'il faut mettre des pixels.
Voilà, il comprend, et là on le voit dans RTX Remix, il y a des textures qui n'existent pas dans le jeu, qui apparaissent avec RTX Remix et qui sont complètement plausibles. Donc évidemment, si un jour tu dis je voudrais faire Morrowind ambiance futuriste, il va se faire des châteaux peut-être avec des portes en métal gris et des couleurs grises, ça peut être foireux.
Ça va être très foireux, je pense, mais oui, ok.
Mais en tout cas, pour les modeurs du dimanche qui auront, avec juste un service gratuit, une carte graphique Nvidia et pas vraiment, on va dire, des notions de bidouillage, mais pas forcément de hard coding, parce qu'encore une fois, va te retaper, si tu veux refaire Final Fantasy VII et le recoder ou le changer, etc., avec le code d'origine, s'il est quelque part, va essayer de comprendre les outils propriétaires de chaque jeu des années 2000-2010, c'est impossible. Et là, je trouve ça génial pour les modeurs, je trouve ça génial pour nous les joueurs, parce qu'encore une fois, on pourrait peut-être avoir les jeux dont on rêvait, voilà, et c'est une catastrophe pour l'industrie du remaster, et donc je trouve ça encore plus génial, évidemment, puisque ces chiens de la casse là qui viennent se servir sur nous en mode Yankee, il va payer plus cher, c'est peut-être bientôt finir pour eux. Donc j'ai envie de dire merci de
formidable dire. Message d'espoir, du coup.
Incroyable, un message d'espoir envoyé à tout le monde. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est pas bon pour la 2D et que du coup je suis toujours triste, je rêve d'un upscaling, d'un pixel ultra HD là, perfect. Non, quand tu regardes bien, quasiment tous les portages de jeux, c'est juste du on a fait les pixels plus gros, tu vois, mais il n'y a pas d'interpolation de pixel art.
Il y a comme ça, je pense que la 2D
flat, elle peut le faire.
Très bien, j'attends, faites-le moi. Fibre.
Deux réactions. Donc la première, je crois pas à la disparition des métiers. La meilleure preuve, c'est que
j'ai pas dit les métiers, j'ai dit certains.
Je veux juste caler un truc, comme, parce que par exemple Midjourney remplace les graphistes. On va dire, on peut dire ça. Et aujourd'hui, on cherche un bon réel Midjourney dans un de nos projets, tu vois. Et on a du mal à le trouver. La personne qui dit bon, c'est
de la manière que les dresseurs d'IA ou les prompteurs sont
dans un bon réel Midjourney, c'est-à-dire tu cherches un gars qui sait écrire dans le champ de recherche.
Ouais, les bons mots, c'est compliqué. Bon, mais c'est pas grave, on en reparlera. Mais
c'est un métier. Il va y avoir des marketplaces où tu vas vendre des prompts d'intelligence artificielle.
Ouais, ça c'est sûr. Mais alors, par contre, l'âme. Hyper surpris que t'aies pas vu l'éléphant dans la maison. Et moi, dès que tu l'as dit, j'ai dit mais incroyable, tu résous plein de problèmes. C'est que en transposant, en scannant les univers, en les transposant dans un univers, un truc open source, tout ça, en fait, tu viens de donner le marché des NFT hyper bankable. C'est-à-dire que quand Ubisoft est arrivé en disant...
Le lance pas dessus.
Mais quand Ubisoft est arrivé en disant « Hey, le flingue dans The Division, vous allez pouvoir l'utiliser dans Assassin's Creed », on a tous dit « Bah non, gars, c'est pas techniquement possible. » Bah là, t'as trouvé la solution technique, en vrai.
Ah bah, allez voir le...
Esthétiquement, mais en fait, non.
Mais si, mais...
Alors, disons que le USD de mis au point par Pixar... C'est un peu la tour de Babylone de la 3D. C'est qu'en fait, n'importe de Babel, non
Babel, ouais, ça, ouais. Oui, c'est Babel.
Ouais, de Babybel, on va dire. Comme ça, pas de dispute. Mais effectivement, l'USD de Pixar te permet de mélanger des assets et des logiciels.
Oui, mais en fait, encore une fois, ça sera du pur esthétique. Si toi, tu voulais l'arme de The Division dans Splinter Cell parce que c'était le fusil avec une portée,
mais là, c'est
machin,
possible. C'est-à-dire qu'avant, ils nous mentaient. Avant, on disait, les gars. D'accord, mais avant, on leur disait, les gars, votre arme, jamais ça marchera, il faudra des années de travail. Et même eux, ils le savaient. Mais là, en vrai, on commence à avoir un début de solution technique. Ce qui est incroyable.
Le début de solution, ce n'est que visuel. C'est ce que je disais, c'est qu'en fait.
La texture de ton flingue,
tu peux faire apparaître un asset.
Voilà. Du flingue.
Tu peux chercher un asset et le mettre dans un jeu maintenant, et ça c'est déjà fou. Mais en tout cas, tout ce qui est gameplay mécanique, c'est
pas.
RTX Remix n'est que visuel.
Moi je te vends mon RTX Remix de Mowin, mais super stylé, et dedans je te mets des pubs pour Mercedes, tu vois. Genre, non, mais en vrai, c'est incroyable le marché qui s'ouvre.
Lui il me fait un peu peur.
Mais c'est ça le problème.
Il a beaucoup trop d'idées, Chloé.
Non, là quand tu parlais pour les métiers, je me disais que ça peut être aussi hyper intéressant pour les artistes du jeux vidéo, tu vois, pour tester des idées. Tu vois, avant de dire, ouais, j'aimerais bien une ville comme ça, avec des prompts quand même assez précis, pouf, ça te sort une V1 qui que tu peux améliorer en disant,
ne me lancez pas là-dessus, mais effectivement, les open world quadruple A 1D vont devenir possibles parce que la génération
procédurale,
mais par prompt vraiment fine, te permettra d'avoir 3 millions d'habitants avec des profils ultra détaillés.
Si on réussit à faire du procédural, mais avec un peu d'humain dedans, tu vois, un peu de personnalisation.
C'était la critique qui revient plus souvent avec Dali. La création graphisme pour Dali, c'était genre, oui, mais du coup, ça va tuer les graphistes.
Certains graphistes,
les mauvais, oui.
C'est ce que je dis.
Mais les bons, ils vont plutôt. Voilà,
les caisses automatiques, ça va tuer que les mauvaises
caissières. J'en ai discuté avec quelques-uns.
Elles sont toujours là.
J'en ai discuté avec quelques-uns qui me disaient en fait, non, ça permet de tester très vite des idées. Et dire, ah oui, ok, il y a un truc, je vais pouvoir continuer moi-même.
De toute façon, pour l'instant, ces images-là, elles sont même pas. Enfin, il y a plein d'artefacts et tout, tu vois, c'est pas propre encore.
T'as le fameux concours d'art qui a été remporté par INIA, et le mec, il a soumis 3. Dessin via son IA, il a annoncé avoir fait plusieurs centaines de prompts pour justement fignoler son prompt, etc. Ouais. Et le truc, il a présenté un concours en expliquant aussi que c'était fait par lui et une IA. Il a gagné. Le scandale n'a commencé que quand il a gagné, mais c'était très beau. Enfin, c'était très beau, c'était même un peu stéréotypé, mais c'était pas du tout un truc avec des un peu ambiance
à
quoi pense l'IA de Google il y a 3-4 ans. T'as des trucs vraiment vénères. Là, on en a parlé aujourd'hui en émission. T'as des IA qui te permettent de créer des déclinaisons de toi de perspective. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends une photo de toi et en fait, l'IA va créer ton profil, ton 3/4, ton machin, etc.
Oui, évidemment. Oui.
C'est ouf, et encore une fois, quand on voit comment on en rigolait il y a 3 ans, comment c'est déjà un peu flippant là pour l'audio, pour le deepfake vidéo et pour le texte sous image et texte sous vidéo, rendez-vous dans 18 mois, tu vois.
Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on fait de la motion capture pour les personnages depuis 10-20 ans maintenant. On va faire du place capture. Tiens, je vais arriver dans ton appartement, Chloé, je dis, trop bien, on va en faire un jeu vidéo. On met le petit truc, zup, et on le scanne, et après il est dans le jeu vidéo.
Et encore une fois,
c'est déjà le cas, ça.
Le projet Tango de Google, ça 5-6 ans, et encore une fois, allez voir la conférence d'NVIDIA sur la GTC. Franchement, vous allez comprendre un truc sur quatre, mais c'est vraiment incroyable. Ça met 1000-0 à toutes les conférences de marketing au tech des autres géants. Et franchement, ce qu'ils vous montrent là, le RTX Remix, j'y crois parce qu'en fait, c'est tellement rien par rapport à ce qu'ils vous montrent pendant l'heure et demie qui suit. Que c'est évidemment, tu dis, ah bah oui, en fait.
Moi, dans tout ce que tu dis, je vois quand même un Eldorado incroyable pour la Switch parce que tu parles pas d'un truc. C'est qu'il y a un moment, il faut savoir optimiser tes trucs. Et tes portages de textures incroyables 4K qu'on remet des machins, sur une console sous-stuffée, ça rentre pas, ça.
Alors,
ma gueule.
On rappelle, ma gueule, que la Switch, elle tourne avec un Tegra, que Tegra, c'est Nvidia, et que
tout à fait.
Si Nintendo sort les doigts, ils ont la dernière version. Il y aura du DLSS.
Elle peut pas sortir plus qu'elle n'est capable d'en calculer pour le moment.
Le DLSS, ça va forcément arriver sur le
Et c'est là où tu dis, il y a vraiment sur Switch des gens qui sont très talentueux et qui sont capables de rentrer des jeux qui incroyable. Ne semblaient pas être possibles. J'ai pu tester Nier Automata sur Switch. Ce portage est un miracle. À côté, j'ai testé Life is Strange sur Switch et j'ai vomi. Alors que les deux, c'est Square Enix, que les deux, c'est des jeux, ouais, on va dire des jeux PS3, vous m'avez compris pour Nier Automata, étant donné qu'il n'y a pas de couleur dans le jeu, et qu'il y en a un, il est bien porté, l'autre, il n'est pas bien porté. Le talent humain. Le talent de codeur, le talent humain. Ce ouais, même bah... talent qui a fait de Pokémon Stadium un miracle sur Terre.
Ouais, on va le couper, tu on vois, va le couper.
Le prochain ne sera métier... jamais remplacé par tes intelligences bah, artificielles.
Le prochain métier du jeu vidéo qui va clairement être menacé par l'IA, c'est le non, c'est les testeurs.
C'est moi, oui, c'est moi,
tu
oui,
parce que maintenant moi. Tu vas poser ton jeu, tu vas le faire tourner dans une IA qui va faire 3 millions de parties en 2 heures et elle va trouver tous les bugs de l'histoire.
Ça va faire comme
secondes.
Les testeurs de photos chez IKEA en fait.
Ouais, bah, ce sera une très bonne chose tant c'est le pire métier du monde.
C'est un métier de souffrance hein, pour les gens qui sont dedans, ça c'est sûr. Mais bon, en attendant, allez voir RTX Remix et c'est vraiment impressionnant. C'est très. Vraiment impressionnant.
Et eh bien voilà, incroyable. Merci beaucoup la MUA. J'étais pas au courant de tout ça parce que c'est vrai que ça m'avait endormi. J'ai plutôt préféré retenir l'incroyable prix de la RTX 4090. Hein,
je le prédis.
2000
bientôt,
euros.
Bientôt, la référence de la carte graphique sera le prix de vente. Je vous le dis. On va y arriver.
Et on va y arriver. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir écoutés. C'est incroyable, ce podcast est limite écoutable tant il dure un temps raisonnable.
Deux fois une heure.
Hein. On rappelle Fibrotic quand même, un petit Patreon qualité. Est-ce qu'on peut faire rentrer les sous-sous ici?
Il est tellement faible que j'ai honte d'en dire le nom.
Oh en fait. Non.
Mais c'était le pire commercial de l'histoire.
Non, hein, mais bah. Il est mourant. Je veux dire, vous voulez sauver un enfant mourant de faim? Bah allez-y. Mais
comment on se finance alors?
Sinon, quoi?
Comment on se finance?
Bah rien, par nos larmes.
Par l'amour. On se finance par nos larmes.
Non, en vrai, on gagne plus. Enfin, si vous voulez pas donner au Patreon, faites tourner plusieurs fois le podcast sur Spotify. Ça marche.
Voilà,
bien.
À fond. Écoutez-le en entier.
Non. Vous lancez chez vous. Vous partez au boulot. Ça coûte un peu d'argent à la planète, mais voilà.
Non, alors téléchargez-le en local et
ah
tourner.
Non pas en local non ça compte pas sinon
il assumera pas ses paroles dans un mois de toute
ah
façon.
Non pas du tout
c'est vraiment horrible très bien
il est fatigué sans son moment
merci Fibre Tigre à notre commercial fatigué évidemment merci Chloé
merci Dan
et merci Gislain évidemment qui nous a réalisé ici et à très bientôt pour un prochain épisode
ciao.